Boomerang avec Philippe Solers. C'est parti. J'ai refermé le livre. Après en avoir lu la dernière page, l'avoir relu cette dernière page comme pour ne pas le quitter tout de suite, je tiens le livre dans la main, il est plus épais, vous savez, comme grossi, gondolé par la lecture, un peu meurtri aussi, corné, taché, marqué. Si je le pose, il s'ouvre en éventail, il ne tient plus fermé. Mais je ne veux pas le poser, pas encore, pas tout de suite. Alors je regarde le titre à nouveau, Le Lambeau, on en a parlé ce matin, il est aussi sur la tranche ce titre, Le Lambeau, et sur la quatrième de couverture qui reprend les définitions du trésor de la langue française, entre deux citations des Contes immoraux de Borel et de la débâcle de Zola, trois définitions qui éclairent si bien l'immense livre de Philippe Lançon, ce qu'il advient d'un livre, d'un corps, du monde, quand il est en lambeau. Lambeau, substantif masculin, un. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchirée ou arrachée, détachée du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie, morceau de chair ou de peau arraché volontairement ou accidentellement. Lambeau sanglant, lambeau de chair et de sang. 3. Chirurgie, segment de partie molle conservé lors de l'amputation d'un membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. Qu'est-ce qui est en lambeau aujourd'hui ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. De quel lambeau nous parle mon invité d'aujourd'hui? Il est écrivain. Son 81e livre, Centre, apparu il y a quelques semaines aux éditions Gallimard, un roman versatile, digressif, qui parle de psychanalyse, mais surtout de notre époque. Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, parce que je sais que ce même livre d'un autre Philippe vous a marqué, qu'est-ce qui est en lambeau pour vous aujourd'hui?
À peu près tout. Et le problème n'est pas que tout ou à peu près soit en lambeau, mais que personne n'a l'air de s'en apercevoir, ni de le ressentir profondément. Vous avez un déluge de publicité, de bavardage, qui sont diffusés sans arrêt. Pensez à ce que devient le corps, par exemple, de Johnny Hallyday, qui est dépecé sans arrêt, en boucle, parce que ses biens sont en vente, il y a des disputes. Voilà le corps de cette grande star qui est à vendre. Alors il y a un bras, il y a trois doigts, il y a un pied, il y a deux oreilles. Ouh, attention à qui aura les deux oreilles. Alors les biens immobiliers, les albums, l'argent.
Pourquoi ?
Vous met en lambeaux. Voilà. Donc je reviens sur le livre prodigieux de Lançon. Prodigieux. Parce que c'est un livre au plus près de la mort qui est là. Hein, à Charlie Hebdo, il est l'un des seuls survivants de cette attaque. Et ce qui est très très beau, c'est pour ce type qui a fait 17 opérations dans lesquelles on s'écrivait, il m'écrivait depuis l'hôpital des Invalides. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un très bon journaliste, mais là il devient un écrivain fondamental, vous voyez. C'est ça qui est magnifique.
En quoi est-ce qu'un livre, mieux que n'importe quel journal télévisé, ou n'importe quel article de presse, n'importe quel commentaire, puisque vous les citiez tout à l'heure, permet de mieux restituer, permet de mieux dire, Philippe Solers?
Mais ça, c'est le style. Il n'y a pas... Qu'est-ce qui permet le style? C'est le style. Qu'est-ce qui permet l'écriture? C'est l'écriture elle-même. C'est-à-dire être là, dans chaque phrase, avec les syllabes, la musique et le rythme.
Ça veut dire que la seule façon de comprendre le monde, c'est d'avoir du style?
Oui, je crois. C'est pour ça que si peu de gens comprennent le monde et bavardent autour sans le voir. Les gens, vous les voyez tous les jours.
Enfin, pourtant...
Ils sont sur leur portable. Ils ne voient plus un arbre, ni une fleur. Ils ne se voient plus eux-mêmes dans les selfies.
Mais pourtant, Philippe, il a été fait état de la culture littéraire de notre président et même de notre premier ministre.
Vous rigolez. Oui. Non, tout ça, c'est des...
Ils sont
charmants, mais comment aurait-il le temps de lire un livre? Enfin, non, c'est pas possible.
Quel conseil de lecture est-ce que vous faites aux puissants de ce monde?
Aucun, parce que je sais qu'ils ne seront pas suivis. Ils n'ont pas le temps.
Soyez optimiste, que Dieu entre une fois.
Non, à part les puissants de ce monde, hein, oui. Oh, qu'est-ce que devrait lire Trump? Par exemple, le marquis de Sade, ça le détendrait.
Et Shakespeare?
Et alors Shakespeare, monsieur, vous savez, là je parle beaucoup de Freud, qui s'est demandé toute sa vie qui pouvait être Shakespeare.
C'est ce qui fait le lien aussi avec votre livre, absolument, entre votre livre et celui de Philippe Lançon, qui parle de Shakespeare aussi.
Écoutez, c'est très simple. Vous avez, pour Lançon, il s'en est tiré avec Proust et Jean-Sébastien Bach.
Et Shakespeare, La Nuit des Rois.
Et Shakespeare, La Nuit des Rois, qu'il a vu la veille, mais dont il se souvient pas très bien quelle est l'intrigue, etc. Mais quand même, Shakespeare est là, comme c'est curieux. Et il est là tout le temps pour moi. En tout cas, moi je vous sors là, je suis en train de relire La Nuit des Rois, ou je relis Comme il vous plaira, etc. C'est un type qui a absolument tout compris.
Qu'est-ce qu'il a compris ?
Il a compris que tout, all the world is a stage, que le monde entier est un théâtre, une scène de théâtre, que tous les rôles sont là pour qu'on puisse les vivre d'une façon très ambiguë, parce que, comme vous savez, les femmes ne pouvaient pas monter sur une scène chez les puritains de l'époque, donc c'était des garçons qui jouaient les femmes, et souvent, les garçons qui jouaient les femmes se travestissaient en hommes, et c'est, donc, comme Il vous plaira, c'est absolument extraordinaire. Donc,
la citation que vous venez donner, la lucidité, tirée de Comme il vous plaira.
La lucidité, oui. If music is full of love, voilà. Si la musique est la nourriture de l'amour, voilà. Tout est musique chez Shakespeare, tout est amour et très, de façon très, très subtile.
Et Freud, vous le dites dans votre livre, est obsédé comme vous par Shakespeare. Il faut parler de psychanalyse parce que c'est évidemment une science au centre de votre dernier roman qui s'appelle Centre et où vous mettez en scène une psychanalyste et son amant romancier. Et au sujet de la psychanalyse, vous écrivez, Philippe Solers, quel est le seul scandale possible dans un monde où plus rien ne fait scandale ? Vous êtes sûr ?
Oui, je crois que ça ferait scandale parce que ça obligerait, ou ça devrait obliger, si c'était pas devenu une routine. Il faut redécouvrir les découvertes de Freud. Le type est étonnant, spécial, aventurier de génie. Donc, ça vous oblige à la vie intérieure, parce que si vous vous allongez pour raconter votre dernier rêve, tiens, racontez-moi votre dernier rêve.
Oh, non, c'est pas banal.
Oui, mais justement, non, vous m'en avez déjà parlé. Parlez-moi plutôt de celui qui venait avant. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ah oui, vous croyez.
Donc, mais sur le scandale, il y en a des scandales aujourd'hui.
Non, il y a un seul scandale aujourd'hui, c'est d'avoir une vie intérieure. C'est foutu. Donc tout est réglé pour que vous soyez le serviteur du spectacle.
C'est peut-être pour ça que vous faites scandale.
Oui, enfin, d'une façon très... il ne faut pas faire scandale de front. Il faut faire scandale, c'est l'art de la guérilla, n'est-ce pas ? Il faut pointer, se retirer aussitôt, etc. Voilà, donc j'ai une femme psychanalyste. Un jour, elle me dit, il y a un an à peu près, elle ne me raconte pas ses cas, parce que elle serait obligée de me raconter toutes les névroses, toutes les cochonneries qu'elle entend sur son divan. Elle s'endort parfois, probablement. Elle me dit un jour ça. Elle me dit, c'est curieux. Moi, j'ai beaucoup de patients et de patientes qui se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser le paragraphe qu'ils viennent de lire. Ouh, là, je sens qu'il y a baleine sous gravillon et que c'est le sujet. Vous voyez, la mémoire est atteinte. Donc, vous foncez dans le numérique. Vous êtes dans le digital constamment. Comment voulez-vous que si vous êtes dans la communication très resserrée, où vous avez un vocabulaire très restreint, vous puissiez lire quoi que ce soit et retenir surtout. Votre mémoire est attaquée. Il y a une lésion voulue dans votre mémoire pour que vous soyez un bon serviteur du trafic. Voilà, c'est en cours.
Mais alors pourquoi vous n'avez jamais fait de psychanalyse, vous ?
Oui, j'ai pas besoin parce que je lis beaucoup. Et je retiens beaucoup ce que je lis. Donc j'ai une telle mémoire que je ne souffre pas.
Et quels avantages est-ce que vous avez en tant que romancier à être marié à une psychanalyste ? Je vous entendais décliner ces personnages de papier.
Oui, voyez-vous que j'ai tout à fait bien choisi, puisque je suis absolument au centre de ce qui se passe. Non, elle est très bien, Julia. C'est une très bonne, elle a une très très bonne réputation.
Et je vous pose la question, parce que dans Centre, le personnage de Nora est psychanalyste et parle beaucoup de ses passions, de leurs troubles, de leur lubie, on dirait des personnages.
Écoutez, Freud est un type de génie. Je vous assure qu'un des plus grands romans, tenez, faites l'expérience, l'un des plus grands romans que vous pouvez lire, c'est Cinq psychanalyses de Sigmund Freud. Vous verrez, vous ouvrez ça, prenez-le, et vous ne vous ennuierez pas une seconde dans le déluge des romans qui n'ont aucune importance, qui paraissent sans cesse en nous racontant péniblement leur névrose de leur roman familial.
Comment parler plus longtemps de psychanalyse sans entendre la voix de celle qui partage votre vie, Philippe Solaire? C'est qui était venu nous parler à ce micro de vous, notamment Julia Kristeva, il y a 3 ans, à l'occasion de la sortie de votre facétieux dialogue intitulé « Du mariage considéré comme l'un des beaux-arts ».
Il est beaucoup plus contre le mariage que moi. Moi, je reste. C'est un révolté. C'est un révolutionnaire, un anarchiste et drôle, ce qui est assez rare d'ailleurs dans les rangs des révolutionnaires. Non, moi, je suis davantage pour la révolte, mais matinée de soins. Et je pense que le besoin de soins, de soucis de l'autre, demande une certaine stabilité. Ceci dit, je suis pas une fanatique du mariage. Et quand on s'est rencontrés, c'était 2 ans après mai 68. Le mariage n'était pas du tout à la mode. Je voyais pas les foules se réunir pour manifester pour le mariage à cette époque-là. Surtout Philippe qui dit qu'il est contre le mariage, sauf le sien. Parce que évidemment, c'est lui et moi, ça se comprend. Mais pourquoi on l'a fait? D'abord parce que moi, j'ai voulu tester pour savoir s'il m'aime vraiment. Donc c'était une question d'interrogation comme ça sur le lien. Ensuite, j'avais besoin de papier venant de loin, 2 ans avant mai 68. Régulariser les papiers, c'était pas évident, même si on n'était pas aussi nombreux, nous les émigrés de l'Est, à cette époque-là. Et puis ensuite, je l'aimais et je trouvais que c'est ce lien-là de 2 personnes très singulières, 2 étrangers en quelque sorte, chacun dans son domaine, ne pouvait que être le lieu où je dois être. Et pour que ce lien qui est le lieu où je dois être, qui m'a paru indispensable, comme dans toutes ces histoires de coups de foudre, il fallait une certaine légalisation.
Pas mal.
Vous vous souvenez du jour où vous avez rencontré Julia Kristeva?
Je suis dans mon bureau de la revue Telle Quelle qui était à cette époque au Seuil. Et donc j'ai reçu une demande d'interview de la part d'une jeune étudiante qui arrive de Bulgarie et qui a 25 ans. Et je me dis qu'est-ce que ça va être ennuyeux, d'universitaire, tout ça. Et je vois rentrer d'abord une jeune femme très très belle et qui me pose aussi des questions. Alors, d'une précision, d'abord avec un français parfait, vous l'entendez. Donc, elle me prend quasiment dépourvu parce qu'elle me parle de choses que je ne connais pas très bien, qu'elle connaît beaucoup mieux que moi. Par exemple, les formalistes russes, vous voyez, vers 1920-1930.
Et ça, vous aimez bien être pris au dépourvu, Philippe.
Oui, et donc, voilà. Et donc, on est allé prendre un verre, puis on a continué la discussion, la conversation, qui ne s'est pas arrêtée.
Elle parle aussi, quand elle parle de mariage, au moment de votre rencontre, de la nécessité d'obtenir des papiers. Ce qui nous emmène forcément à évoquer cette polémique romanesque récente, Philippe Solaire, autour d'un dossier relayé par Le Monde et l'Obs qui prouverait l'appartenance de Julia Kristeva au service de renseignement bulgare. Alors elle a démenti, vous aussi, vigoureusement. Mais de quoi témoigne cette affaire?
Oui, c'est très très étrange. La police totalitaire est ce qu'elle est. Ce qui est étrange, c'est pas tellement qu'il déclassifie des trucs. Elle était très surveillée, hein, bien entendu. Bon, donc il n'y a rien dans ce dossier. C'est de la foutaise. C'est tout ça est fabriqué. Mais non, c'est pas ça qui est intéressant. C'est que ça sorte dans la presse française.
C'est la question.
Si vous prenez l'Obs, vous voyez que ils ont interrogé une journaliste qui est bulgare, qui est basé à Sofia. Donc, que veulent ces braves gens? Se faire un peu de célébrité, un peu.
Enfin, c'est ça le plus drôle. Là, oui. On est vraiment dans les faits alternatifs de Donald Trump, Philippe Solaire. On est dans la fake news.
Oui, vous êtes dans la fake news.
Et ça me fait penser.
Vous êtes dans la post-vérité, vous êtes dans la. Oui, c'est ça.
À un passage de votre livre que j'aimerais lire si vous le voulez bien, page 98. À l'ère du spectacle mondialisé, la post-vérité s'impose. D'ailleurs, tout est devenu post. Post-moderne, post-sexuel, post-religieux, post-politique, post-climatique. Un poste et une poste n'ont plus grand-chose à se dire et restent penchés sur leur smartphone en contact constant avec d'autres postes. Les postes ovocytes sont sur le marché, de même que les postes spermatozoïdes qui se font de plus en plus rares. Le poste utérus est en cours. Ainsi va le poste, déjà dépassé dans la cyberguerre par l'hyperposte. Plus de postérité, plus de posthume. Rien que les postures postiches sans avenir.
Pas mal écrit. Pas mal écrit.
Entre nous, honnêtement, il ne vous est jamais arrivé d'être poste, vous ?
Je comprends le poste. C'est pour ça que je peux en parler.
L'êtes-vous ?
Non, vous voyez, il faut l'être d'une certaine façon pour le comprendre.
D'être post-solaire, ça ?
Mais je suis post-solaire comme un fou. Solaire, ça va. Ça va comme ça, dégage.
Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir un peu dépassé, Philippe Solaire ? C'est par cette vitesse dont vous parlez.
C'est vrai. Et vous savez par qui je me sens dépassé tous les jours ? Par Solaire, il anticipe et on ne voit plus. C'est la guérilla, monsieur Trapenard, écoutez-moi bien. L'art de la guérilla, c'est quelque chose de tout à fait spécial.
Alors l'avenir, vous le voyez comment ?
La guérilla continue.
Encore ?
Plus que jamais, elle a toujours été là. Et elle est vouée à la réussite des réfractaires et ce que j'appellerais maintenant les singularités positives.
Est-ce que vous pensez parfois, quand même, à la postérité, Philippe Solaire.
Oui, tous les jours, et c'est chaque jour la postérité, et il faut mourir, sans cesse.
Vous n'avez pas peur de la mort ?
Pas du tout.
Alors de quoi vous avez peur ?
De rien.
Dans cette émission, ça tombe bien, parce que comme le dit si bien notre programmatrice Valentine Chedebois, il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a de la place que pour l'amour et la beauté, figurez-vous. Je me sens d'ailleurs à votre contact d'humeur tout à fait sentimentale, pour ne pas dire sensuelle, sentimental mood, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, 1957, vous êtes sur France Inter, avec Philippe Solaire. Vous écoutez Boomerang.
Magnifique.
In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. Rose petals seem to fall. It's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental me.
Trapenard.
Il est ourson, câlin. Ronron, Héron, petit patapon, un matou de salon que l'on imagine paisiblement installé sur un énorme coussin, vous savez, en plume d'autruche, bien moelleux, en plein soleil, les yeux fermés, les pattes gentiment repliées, sous son poil lustré et volumineux, avide d'une main qui vienne lui gratter le ventre, l'oreille ou le dos, avec son petit gilet et sa veste noire ce matin, sa cigarette au bec évidemment, Philippe Solers, invité de Boomerang pour centre son nouveau roman, un homme et une femme, on le disait, il est romancier, elle est psychanalyste. Et c'est une bonne psychanalyste, dites-vous, car elle a une troisième oreille. Alors là, il faut nous expliquer, Philippe.
Eh bien, elle entend dans ce que vous allez lui dire quelque chose que vous pourriez dire soit autrement, soit de façon plus fluide, soit de façon moins embarrassée. C'est-à-dire qu'elle va vous écouter. C'est très important.
Vous avez une troisième oreille, vous aussi, alors?
Au moins cinq, d'ailleurs.
Cinq?
Enfin, oui, au moins.
À quoi servent les deux supplémentaires?
Une des choses que je ne vous dirai pas, parce qu'il y a un érotisme de l'oreille très particulier.
Je ne devrais même pas vous poser la question.
Oui, voilà. Enfin, donc, moi, je regarde beaucoup les oreilles des femmes, puisque c'est mon penchant.
Regardez les oreilles des hommes, Philippe Solers, regardez les miennes.
Elles sont pas mal.
Elles sont un peu pointues.
Non, c'est très bien. Bon.
En tout cas, les échanges entre ces deux personnages de votre roman, dont l'un semble partager avec vous certains points communs, donnent lieu à toute une série de digressions sur la psychanalyse, mais aussi sur aujourd'hui. Et vous écrivez « Mes romans sont des liaisons de raisonnement. J'entends des voix, je les transcris, ma voix est mêlée à elles. » Ces voix, elles viennent d'où ?
Elles viennent soit de l'intérieur, soit des voix qui grincent, qui sont... Je suis très, très auditif. C'est pour ça que je trouve que Freud a une idée de génie. Retournez-vous, et maintenant je me mets derrière vous, et parlez. Et puis je vais écouter. Donc, là, je suis très, très, très alerte des voix. Les voix disent tout. Vous avez entendu la voix de ma psychanalyste de femme.
Et Julia Christella.
Oui, Julia. Elle a une voix très mélodieuse, avec très peu, une pointe d'accent, mais ce qui ajoute à la voix. Voilà, je regarde les oreilles, les yeux et la voix. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, mais comment était-elle habillée quand vous l'avez rencontrée? J'ai dit, je ne sais pas. Je regardais ses mains, son regard, et j'écoutais sa voix.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la façon dont s'organise votre pensée. Et là, on l'entend à mesure que vous me parlez, en toute liberté, sans contrainte. Comment est-ce qu'un livre de Philippe Solers s'écrit, comme ça, d'une idée à l'autre?
C'est-à-dire que je commence par quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Et voilà, j'écris, et j'en regarde un peu pour le lendemain. Et c'est le texte lui-même qui va me dire comment il veut rebondir. Voilà, d'où le fait de situer ça par petits chapitres, parce que je tiens compte du fait que, comme le play, vous rappelez l'esprit disponible pour un quart d'heure de télévision. Non, moi, je pense que la capacité du lecteur étant affaiblie, et je vous ai parlé de l'oubli du paragraphe qu'on vient de lire, c'est ça qui est extraordinaire.
Donc vous avez le lecteur en tête, avez-vous un lecteur en tête?
Bien sûr, c'est moi dédoublé.
Pourquoi ne suis-je pas surpris?
C'est moi dédoublé, non, c'est pas n'importe qui. C'est moi dédoublé qui essaye de comprendre ce que je suis en train d'écrire. Voilà, pour rebondir dessus.
Arrive-t-il que ce soit une femme?
Ah, la lectrice idéale, oui. Oh, il y a un si joli mot d'André Breton que je peux vous citer, peut-être.
Dites-moi.
La lectrice excitée éteint l'électricité.
J'aimerais qu'on entende la voix d'une femme à qui vous vous êtes beaucoup adressé par lettre, Philippe Solers, et qui, elle aussi, s'est beaucoup adressée à vous. Votre correspondance est en cours de publication après un premier tome paru en novembre dernier. C'est Dominique Rollin.
En fait, cette rencontre avec Jim, qui a tout de même un côté assez extraordinaire, original en tout cas, était faite dans le but d'achever de me libérer complètement. Tout d'un coup, j'ai vu s'écrouler autour de moi tous les vieux tabous qui auraient pu me retenir d'aller jusqu'au bout de moi-même. Moi, j'appartenais malgré tout à une génération d'écrivains qui restaient timidement enfermés dans un moule qu'ils pensaient définitif. et le phénomène du nouveau roman m'a complètement libérée, et ça coïncidait aussi avec l'apparition de Jim.
Vous avez remarqué cette voix, elle aussi très mélodieuse, la diction est parfaite, sa mère était professeure de diction. Donc, elle pouvait réciter des poèmes d'une façon admirable, des poèmes entiers qu'elle avait mémorisés, dans les plis sinueux des vieilles capitales, etc. Bon, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici, c'est Baudelaire. Oui, vous voulez que je vous lise une de ses lettres ?
J'en rêve, Dominique Rollin, qu'on vient d'entendre il y a 18 ans sur France Culture, Philippe Solers, où elle évoquait Jim avant toute chose, peut-être, le personnage de son roman Amour, un Jim qui n'est pas sans lien avec vous, je me suis laissé dire.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire aimer pour vous ?
Ça veut dire être. J'aime, donc je suis. C'est mieux que je pense, donc je suis, qui est un peu prétentieux, parce que la plupart des gens se croient penser, mais quand ils vous racontent leurs pensées, c'est assez pénible. Vous savez. Donc, tandis que est-ce qu'ils aiment, ça, c'est assez rare.
Vous allez nous la lire, cette lettre, jamais encore publiée, tirée de votre correspondance avec Dominique Rollin.
Ça part en octobre, il y a quatre volumes, en tout cas. Un volume de moi, un volume d'elle, un volume de moi de nouveau, et un volume d'elle.
Voilà. Elle date de quand, cette lettre ?
Elle date du 14 juillet 1970, le 14 juillet, c'est une fête nationale, mais pas pour les amoureux. Elle est à Juan-les-Pins, où elle est invitée par Florence Gould, qui lui prêtait sa maison pour quelques jours. Je ne peux plus parler avec personne. Quand je ne suis pas sur ma page, je ferme les yeux et je te parle sous le front. Oui, nous devrons retourner à Barcelone, au Louvre, pour les sarcophages égyptiens, boucler l'étrange couronne que nous avons réussie. Elle monte en tournant. Ton image de l'escalier de Chambord est splendide. Notre vie est une couronne en forme d'escalier. Je n'aime pas ces jours fériés sans lettres. T'écrire, c'est te lire à l'envers. Je pense au regard de ton père, à ta mère aussi, à leur fantastique patience. Toi aussi, garde-nous bien. Les jours glissent de profil. Vers toi et venant de toi, tu es mon grand amour. Voilà.
Ça tient qu'à ça ?
Il y en a plein qui sont toutes aussi belles et aussi bien écrites.
Comment on réagit quand on nous dit « tu es mon grand amour », Philippe Solers ?
C'est-à-dire qu'elle me l'écrit. Et elle est sûre d'être lue, puisqu'elle m'écrit. Et moi, c'est pareil, quand je lui réponds, je lui réponds d'une autre façon, mais je suis sûr que ça sera lu.
Donc c'est encore plus fort qu'elle soit écrivain.
Oh, mais bien sûr, les histoires d'amour avec des gens qui sont pas... Vous prenez... elles sont magnifiques.
Il y en a certaines.
Oui, vous en avez plein, les magazines. toutes les histoires, d'autant plus fausses les unes que les autres. Mais il faut prouver qu'on sait dire. La chose. Dire la chose, c'est pas la peine de dire qu'on a eu deux enfants, qu'on en a adopté trois, qu'on s'est tripoté, parti, par là,
etc. Il faut savoir le dire pour que ce soit vrai.
Oui.
L'amour ?
Oui. L'amour ne va pas sans dire, disait mon camarade Lacan. L'amour ne va pas sans dire.
Alors dites-le moi que vous m'aimez ce matin, Philippe Solers.
Oui, je vous aime, mais je ne vais pas vous l'écrire.
Alors c'est sur ces mots qu'on se quitte tout en amour. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission Centre et publié aux éditions Gallimard. Et on continue d'y découvrir votre esprit truculent. Il faut le lire évidemment, n'est-ce pas, Dorothée Barba, les médias, juste après ça.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux regarde sur le sable. Tu sécheras tes larmes dans l'air climatisé. Ultime bain, noie ton chagrin. Je ne suis pas loin. Je te rejoins le mois prochain. Je vais t'aimer l'éternité. Un peu plus de minutes avant l'après. Au matin, j'ai le visage griffé. T'as zoomé dans mes plaies une fois encore. C'est la vallée de la mort.
Flavien Berger, brutalisme, et c'est l'heure des médias. L'instant M avec Dorothée Barba cette semaine. C'est parti.